Il y a toujours des combats à mener. Et je pense que le pire qui puisse guetter un syndicaliste, c'est la résignation. Donc, il faut toujours être dans l'action. L'action, c'est le meilleur remède à l'impuissance.
Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans Femmes de défi, le podcast pour cultiver l'audace. Je m'appelle Léa Lucas, je suis journaliste pour le magazine Courrier Cadre. Toutes les deux semaines, j'ai le plaisir d'échanger avec des femmes courageuses, combatives, qui sont devenues des leaders dans de nombreux domaines, en dépit des obstacles. La femme que je reçois aujourd'hui a pris la tête de la CFDT, le plus puissant syndicat de France, en juin 2023, juste après une crise sociale d'ampleur liée à la réforme des retraites. Marie-Lise Léon, secrétaire générale à la CFDT, est mon invitée. Chimiste de formation, elle fait ses premiers pas de syndicaliste en 2008 en rejoignant la Fédération de la chimie de la CFDT. Depuis, du travail, beaucoup de travail, pour finalement accéder à seulement 46 ans à la plus haute fonction de la CFDT. Et elles sont rares à ce poste. Avant elle, il n'y en a eu qu'une, Nicole Nota, de 1992 à 2002. Mais revenons à Marie-Lise Léon. Quelle a été sa première révolte? Pourquoi a-t-elle fait de la dignité des travailleurs son cheval de bataille? Quel combat compte-t-elle mener désormais? C'est parti, saison 1, épisode 2. Bonjour Marie-Lise Léon.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui.
Merci à vous.
Plus jeune, avant même de devenir syndicaliste, est-ce que vous vous souvenez de votre première révolte, indignation ?
Alors, une révolte dont je me souviens, c'est au moment du... Ce qui m'a guidée d'ailleurs dans le choix de mes études, parce que j'ai fait effectivement des études de chimie, mais des études de chimie en protection de l'environnement. Et je me souviens d'avoir été particulièrement révoltée de constater qu'après... une exploitation dans une usine, par exemple, ou la façon dont on pouvait utiliser les ressources naturelles sans avoir forcément de penser au long terme sur la façon dont on allait laisser un lieu après avoir exploité, par exemple, soit des ressources naturelles, soit un site industriel. Et c'est ce qui m'a guidée, en fait, dans le choix de mes études, de dire il faut qu'on puisse penser l'industrie dans le respect de l'environnement. Et c'est ce qui m'a amenée à faire des études de chimie en environnement, c'est-à-dire tout ce qui était autour de la système de dépollution, de fumée, de l'eau. Et voilà, ma première révolte, c'était de se dire comment on peut exploiter des ressources naturelles sans penser la suite et le fait qu'elles soient, elles vont s'épuiser et donc il faut qu'on puisse penser un peu différemment l'activité humaine.
En 2001, vous êtes marquée par l'explosion de l'usine AZF de Toulouse. Ça va être le véritable début de votre engagement. Et vous allez notamment prendre très à cœur la question de la sécurité des travailleurs dans des environnements professionnels à très haut risque.
Oui, ça a été une histoire de rencontre de militants AZF, CFDT, qui ont été particulièrement exposés. Et ça a été un déclic, en fait, en termes d'engagement syndical, de se dire, mais... Il y a un enjeu de santé et de sécurité dans les entreprises et les plus spécialistes de ce sujet, ce sont les salariés et on ne les écoute pas suffisamment. Donc ça a été vraiment l'idée de cet engagement syndical, de se dire qu'il faut pouvoir porter la parole des travailleurs, des salariés dans l'entreprise parce que c'est les experts du travail en fait et ce sont eux qui ont les solutions pour pouvoir prévenir les risques et apporter des solutions concrètes.
Mais parce qu'à ce moment-là, au moment de l'explosion, vous êtes bouleversée par les drames humains que ça a entraînés, en fait.
Des drames humains, absolument. On a beaucoup parlé de la population de Toulouse, de la ville qui a été fortement marquée. Et c'est vrai qu'il y a eu un impact énorme, avec des impacts à des kilomètres à la ronde suite à cette explosion. Et ce qui m'a marquée au moment de cet accident, c'est qu'on a... assez peu, finalement, parlé des premières victimes qui étaient les salariés qui étaient présents sur le site et qui ont été les premières victimes. Et donc, j'ai suivi beaucoup l'équipe syndicale à ce moment-là qui s'est retrouvée dans une situation terrible tout de suite après l'accident, de vouloir parler d'emploi, de travail, de dire mais il faut qu'on puisse reprendre une activité. Et un refus total de la population, disons, vous êtes venu vous installer en ville et vous avez mis en danger la population. Et ça, ça a été vécu de façon extrêmement cruelle par les salariés. En disant, mais nous aussi, on a payé un lourd tribut. On était attachés à notre entreprise. On a alerté sur les risques qu'il y avait. On n'a pas été entendus. Et j'ai trouvé que c'était profondément injuste. Et je pense que c'était déjà la petite graine de la question de comment on concilie une activité économique, une activité industrielle à haut risque, des enjeux environnementaux et comment on apporte des solutions qui permettent de construire des équilibres et répondre à tous ces enjeux-là.
Aujourd'hui, c'est toujours votre principal combat, on y reviendra. Mais avant, je le disais, en 2023, vous devenez donc secrétaire général de la CFDT, après avoir été secrétaire adjointe aux côtés de Laurent Berger pendant 5 ans. Selon vous, qu'est-ce qui a changé depuis que vous êtes devenue la numéro 1 ? J'imagine que c'est pas pareil en termes de responsabilité, de visibilité médiatique. En fait, ça doit changer beaucoup de choses.
Oui, ça change beaucoup de choses. Je suis la représentante et je me sens portée en fait par le collectif CFDT. Donc c'est un peu plus de 620 000 adhérents et adhérentes.
Plus d'adhérentes d'ailleurs.
Plus d'adhérentes que d'adhérents, absolument. C'est une question de représentation, c'est un sens de la responsabilité aussi qui est différent parce que même si je fais partie d'un collectif à l'échelle nationale, on est 10 responsables nationaux de la commission exécutive. Bah, au bout du bout, quand il faut prendre une décision, que tout n'est pas arbitré et qu'il faut aller vite parfois, bah, c'est je dois décider et je le fais. Et puis le dernier point, c'est un peu plus personnel, mais je n'avais pas l'habitude d'un agenda réglé au quart d'heure près. Et c'est, voilà, ça fait partie des choses avec lesquelles il faut que je compose. Ça, c'est aussi nouveau.
Et les sollicitations médiatiques, justement, et donc la présence sur les réseaux sociaux, est-ce que ça, c'est difficile à supporter ? Est-ce que ça peut peser parfois, cette pression, cette réaction, peut-être
non,
qu'on vous demande
que...
à chaque fait ou parole qui peut circuler dans l'espace médiatique ?
Ça fait partie des questions, justement, qu'on se pose collectivement. Quel est le... Il y a mille et un sujets d'actualité sur lesquels on pourrait réagir. La question, c'est toujours de se dire... En tant que syndicaliste et en tant que CFDT, qu'est-ce qu'on attend de mon organisation ? Je pense qu'il ne faut pas qu'on s'exprime sur tout. On a beau être un syndicat impliqué sur les enjeux de travail, d'emploi, mais aussi d'environnement, sur des enjeux sociétaux. La CFDT n'a pas forcément à s'exprimer sur tous les sujets. Donc, un, c'est de savoir là où on est attendu et là où c'est important qu'on s'exprime. Et puis, non, moi, je le vis pas. Pas vraiment comme une pression. Je pense que ça fait partie de l'environnement maintenant des responsables syndicaux, politiques, d'avoir accès à un certain nombre de médias, de systèmes d'information, des réseaux sociaux. J'arrive plutôt... Je pense que... La question, c'est la bonne distance, c'est de savoir qu'est-ce qu'on a envie de faire passer comme message. Et puis, ne pas se faire imposer forcément... un rythme et une obligation de s'exprimer surtout.
Au moment où vous succédez à Laurent Berger, Sophie Binet, elle, remplace Philippe Martinez à la CGT. Est-ce que, selon vous, ça dit quelque chose de la société française ?
Ça dit quelque chose. C'est un signal, je pense, positif. En tout cas, pour la CFDT, vous l'aviez rappelé en introduction, c'est pas la première fois qu'une femme est responsable de l'organisation CFDT. On est principalement un syndicat d'adhérentes. On a 51% de femmes adhérentes à la CFDT. Et donc, avoir une femme en responsabilité, c'est un signal que les femmes ont toute leur place dans le syndicalisme, y compris au poste à responsabilité. Voilà. Donc, je pense que c'est un bon signal, effectivement. Après, ça ne veut pas dire que le travail est abouti en matière d'égalité homme-femme.
Et notamment dans la sphère professionnelle.
En matière d'égalité salariale, ouais. D'accès à des postes à responsabilité dans l'entreprise ou les administrations, il y a un vrai... C'est un sujet de chaque jour.
C'est un sujet dont j'aurais aimé parler avec vous, mais comme on a dit, il y en a beaucoup et on s'attardera peut-être sur autre chose. Mais en tout cas, aujourd'hui, je le disais, le respect et la dignité des salariés, c'est toujours votre principal combat. Je vous ai entendu parler notamment que vous luttiez en fait contre l'idée que les salariés français seraient simplement considérés comme des numéros interchangeables au travail. Qu'est-ce que vous entendez par là exactement ?
Moi, je pense qu'on a, en tant qu'organisation syndicale, notre premier cheval de bataille, c'est rendre visible le travail invisible, le travail réellement accompli, mettre en lumière les compétences développées et de se dire chacun le fait et chacune le fait ce travail-là avec ses compétences, ses propres ressources. Et il n'y a pas de salariés ou de travailleurs standards. C'est pas vrai de penser qu'on est tous interchangeables. On a tous des spécificités, des particularités. Et donc, le travail, ça n'est pas uniquement des procédures à suivre. Il y a beaucoup de choses autres qui doivent être prises en compte. Et je pense que c'est le principal message que voulaient porter tous les militants, les militantes, les travailleurs qui étaient dans la rue au moment des retraites. Ils ne nous parlaient pas tellement de la retraite à 64 ans. Ils nous disaient, mais comment faire mon travail jusqu'à 64 ans au regard des difficultés que j'ai en termes de conditions de travail, des moyens que j'ai à ma disposition, des problèmes d'effectifs, on n'est pas suffisamment nombreux ou nombreuses. Comment je fais pour continuer de travailler dans une entreprise où je sais qu'à partir d'un certain âge, on ne veut plus de moi. Voilà, c'est tout ça qui est important de mettre en lumière pour que l'entreprise et le collectif de travail soient vraiment considérés comme quelque chose d'unique et qui doit donc faire l'objet d'une attention particulière et donc aussi de solutions différentes en fonction des entreprises.
Et lorsque vous échouez à atteindre ces idéaux, justement, que vous défendez, comme la réforme des retraites qui a finalement été adoptée il y a à peu près un an maintenant, après des mois et des mois de luttes acharnées, de manifestations, comment est-ce que vous arrivez à rester pugnace et à repartir tout de suite sur le front parce qu'il y a bien d'autres combats à mener ?
Il y a toujours des combats à mener et je pense que Le pire qui puisse guetter un syndicaliste, c'est la résignation. Donc, il faut toujours être dans l'action.
Mais comment s'en préserver, justement, parce que ça arrive à tout le monde, des moments de découragement
Oui, ça arrive à tout le monde. Après, c'est la force du collectif. Quand on est dans un collectif, on peut avoir un petit coup de mou et puis compter sur son collègue ou son voisin pour être reboosté et de se dire, mais au final, pourquoi on est là et pourquoi on est ensemble ? Et quand on repart de ce qui nous anime... De se dire, moi je suis syndicaliste parce que je sais qu'il y a des injustices au travail, on a besoin de défendre nos droits, d'en conquérir de nouveau. Voilà, ça recharge les batteries. Et puis l'essentiel, c'est l'action, de pouvoir être toujours dans l'action et de se dire, on va pouvoir agir ensemble pour pouvoir changer les choses.
C'est ça, l'action met fin au sentiment d'impuissance.
Absolument.
On va toujours plus loin en faisant quelque chose que si on reste passif.
L'action, c'est le meilleur remède à l'impuissance. Je suis convaincue de ça. Ouais.
Et on vous décrit souvent comme une négociatrice tenace, déterminée. Est-ce que vous diriez que ce sont vos principales qualités ?
Oula, ça serait bien présent. Il vaut mieux poser la question à d'autres, mais... On dit souvent que
si vous arrivez à porter un regard sur la femme que vous êtes.
Ça rejoint ce que vous me disiez avant, ce qu'on échangeait sur la question de la résignation. Non, je n'arrive jamais à me résigner. Donc en fait, je pense que là, et je pense que c'est un enjeu quand on est en négociation d'être tenace. C'est de jamais perdre le cap, de savoir quels sont ses objectifs, qu'est-ce qu'on veut atteindre. Et je pense que ce qui est important, c'est aussi de jamais oublier de qui on représente. Et donc moi, quand je suis en négociation, quand je suis en discussion, je n'oublie jamais que je suis une syndicaliste, que je représente des adhérents et des adhérentes, principalement des adhérentes d'ailleurs, et que les salariés, ils attendent de nous qu'on obtienne des résultats. Donc c'est ça qui est la boussole.
Et vous avez des techniques particulières pour justement tenir bon, rien lâcher, résister Vous avez, quelques astuces
Non, ça, c'est ma botte secrète. Non, je n'ai pas de recette. Non. Peut-être si, quand je suis en négociation, j'ai toujours deux cordes de rappel. Un, c'est quoi mon mandat ? Et quand on négocie, on n'est jamais seul. Et dans l'équipe de négociation, on a le mandat et notre organisation nous a fait confiance sur un mandat définit un certain nombre de choses, et puis il y a des choses qui ne sont pas complètement calées, c'est d'essayer de définir ensemble, avec l'équipe de négociation, c'est quoi les marges de manœuvre, jusqu'où on peut aller, et jusqu'où on peut voilà, se dire c'est quoi la voie de passage pour pouvoir obtenir un accord ou pas. Après, il faut aussi admettre qu'il y a des moments où la voie de passage, on ne peut pas la trouver et qu'il faut savoir s'arrêter.
Et c'est peut-être un peu tôt pour vous poser la question, mais au regard des nombreux défis qui vous attendent, économiques, écologiques, dans un monde toujours plus polarisé, où on a parfois l'impression que les points de vue n'arriveront pas à se réconcilier, à quel moment de votre parcours, de votre carrière, de votre vie, vous vous direz « Ok, c'est bon, là j'ai fait le job, là j'ai atteint un idéal, un objectif que je m'étais fixé, même si on l'a dit, il y aura peut-être eu des défaites par moment, mais à quel moment vous serez satisfaite finalement véritablement de votre travail, de votre parcours.
Alors ça, c'est difficile. Ah, je suis là depuis 8 mois, donc c'est certainement pas maintenant que je vais vous faire mon bilan. Moi, je suis toujours partie du principe, quels que soient les mandats que j'ai eus, que je suis de passage. Je suis là une responsable de la CFDT. Il y a eu des grands responsables avant moi. Il y en aura d'autres après moi. Et donc, l'idée, c'est de faire de son mieux. Et je pense que dans la période, on a... Et ça fait partie des sujets qui me tiennent à cœur. C'est faire en sorte que la CFDT, elle soit moteur pour faire évoluer le syndicalisme avec les changements de société. Et donc, certains nous diront les syndicats sont un peu poussiéreux, les syndicalistes, pas forcément... moderne ou dans l'air du temps. Et je pense qu'on a besoin de... C'est ce qui n'est pas du tout le cas, en tout cas à la CFDT. Et c'est contribuer à changer ce regard sur le syndicalisme, son dynamisme, sa modernité. Et puis faire en sorte qu'en interne aussi, on reste toujours ouvert à ces évolutions du monde du travail. On a traversé des périodes compliquées avec le Covid. Aujourd'hui avec l'inflation, le sujet du pouvoir d'achat est au cœur des problématiques, mais comment le syndicalisme et la CFDT en particulier restent en phase avec toutes ces évolutions et sait adapter ses propositions, mais s'adapter aussi lui-même. Et je pense qu'on a... Donc nous, on a un enjeu d'évolution interne qui sera posé en 2026, au prochain congrès. Ça sera un bon point d'étape pour savoir si la CFDT est dans la bonne direction.
Alors justement, Marie-Lise Léon, si vous le voulez bien, j'aimerais poursuivre cet échange en vous challengeant sur un débat qui secoue la sphère professionnelle. Burnout, dépression, la santé mentale est-elle devenue le mal du siècle? Alors je vous pose la question parce que les chiffres sont alarmants. 2,5 millions de salariés français étaient en burnout sévère en 2022, selon une étude récente d'Opinionway, ce qui représente 34% de la population active. Alors course folle à la performance, hyperconnexion. Le philosophe et écrivain Frédéric Midal alertait en disant que c'était carrément la planète entière qui était en train de faire un burn-out. Il était sur Brut il y a quelques semaines, on l'écoute.
Le problème, c'est que quand on parle du découragement, on n'en parle que d'un point de vue psychologique, en pensant « si je suis découragé, c'est un peu de ma faute, je devrais me remuer, je devrais faire plus d'efforts ». Moi, je crois important d'avoir une lecture philosophique du découragement et comprendre que c'est un problème structurel. Nous sommes découragés parce que l'univers dans lequel nous sommes nous donne le sentiment d'être complètement impuissant par cette domination de la gestion et du contrôle qui fait que par rapport à ça, on a l'impression qu'on n'arrivera jamais, on a l'impression qu'on ne sera jamais assez fort, assez efficace, assez performant, qu'on n'aura pas assez bien géré son stress, ses émotions, on se sent honteux d'être un être humain, donc on est découragé parce qu'on a honte d'être humain.
Finalement, ne pas arriver à atteindre ses objectifs, à être performant au travail, c'est ça qui peut entraîner un burn-out potentiellement. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que la surcharge de travail est réelle dans le monde du travail actuel? Est-ce que c'est vraiment pire aujourd'hui qu'avant?
Alors moi, je me méfie des généralités. Je pense que ça dépend des secteurs d'activité, ça dépend des entreprises, ça dépend de l'organisation du travail. Il y a mille et une situations différentes. Mais moi, ce qui me frappe quand j'échange avec des travailleurs, c'est un sentiment d'impuissance, effectivement, une aspiration énorme à pouvoir avoir prise sur son travail, ce qui peut rejoindre le sentiment d'impuissance, et une intensification. du travail. Le sentiment qu'on en demande toujours plus en moins de temps. Et ça, c'est un phénomène qui dure dans le temps, qui s'accroît même. Et je pense que c'est aujourd'hui un des enjeux majeurs du syndicalisme, en tout cas de la CFDT, de pouvoir dire des choses sur ce qui se passe dans le milieu du travail et la façon dont on peut y remédier. Et l'une des clés que moi j'identifie, c'est de donner la parole aux travailleurs, de leur permettre de s'exprimer sur leur travail, de dire l'ensemble des difficultés qu'ils ont, mais aussi des sources de satisfaction et de pouvoir avancer en partageant justement et en parlant du travail. Je pense qu'on a évoqué au moment du Covid les travailleurs essentiels, les premières, les deuxièmes lignes, notamment les deuxièmes lignes dont on n'avait pas l'habitude de parler ou sur des métiers qui étaient relativement invisibles et qui ont eu énormément d'attentes au moment du Covid et qui ont tenu bon et à qui on a dit « vous êtes essentiels, vous avez tenu la France, vous avez permis à la France d'être nourrie ». Mais ce sont des personnes à qui on n'a jamais donné la parole et qui n'ont jamais pu s'exprimer sur leur travail. Alors nous, on l'a fait en tant que syndicaliste et on a été leur porte-voix. Mais il y a encore un enjeu extrêmement fort de reconnaissance de ce travail accompli. Je pense que ça contribue à ce découragement et à ce sentiment d'impuissance, d'être invisible et de ne pas compter, en fait, et que son travail ne compte pas pour la société.
Alors, c'est intéressant que vous parliez de ça et aussi du Covid, parce qu'en fait, ça me fait penser aux jeunes qui, au final, sont les salariés de demain, puisque la santé mentale, c'est aussi un vrai sujet de leur côté. Ils étaient plus de 2 sur 10 à être concernés par la dépression, selon les derniers chiffres de Santé publique France publiés en 2023. Alors, au départ, tout le monde pensait que, justement, c'était le Covid, l'effet isolement, qu'ils avaient été un peu coupés du monde pendant de nombreux mois. Et en fait, on se rend compte que chez ces jeunes, ça perdure. Et en fait, on ne peut pas mettre tout sur le dos du Covid. Mais je le disais, ce sont eux les salariés de demain. Donc finalement, comment leur donner envie de s'engager dans une entreprise, que leur travail ait du sens, qu'ils répondent notamment à leurs aspirations peut-être écologiques, de pouvoir vivre sur une planète viable. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, ils redoutent peut-être une insertion sur le marché professionnel et parfois à juste titre, quand on voit effectivement les conditions de travail actuelles dans certains secteurs ou certaines entreprises.
Alors, il y a effectivement, je pense qu'il y a un effet générationnel et moi, je suis très frappée du terme éco-anxiété, qui n'était pas, même si je suis encore très jeune, moins que certains et certaines. C'est un nouveau terme, effectivement, qui, moi, m'interpelle beaucoup et notamment, c'est un terme que je prends très au sérieux. C'est-à-dire que j'intègre et je comprends que pour des générations, il y a une véritable angoisse liée au climat, au changement climatique, et ce qui contribue, je pense, à une perte de confiance dans l'avenir et ce qui aussi change le rapport au travail, et de se dire, est-ce que je me projette sur un long terme ou à très court terme? Est-ce que je veux m'investir dans mon travail à temps plein ou en temps partiel? Est-ce que l'activité que je vais mener, mon travail et l'entreprise dans laquelle je vais travailler, il faut qu'elle réponde à du sens par rapport à ce que je porte en termes de conviction par rapport au climat, par exemple. Ça, je le comprends. Et moi, ce que j'ai envie de répondre aux plus jeunes, c'est quelle que soit l'entreprise dans laquelle on est, on peut agir sur ces questions-là. C'est-à-dire que l'entreprise, l'administration, au travail, on peut aussi être acteur pour lutter contre le changement climatique. Et même, c'est parce que les travailleurs se mobiliseront qu'on pourra accélérer cette transition écologique. Et donc, là encore, quand on est au travail, on peut aussi être acteur et être encore dans l'action et pouvoir peser sur les décisions de l'entreprise, sur ses orientations et sur son travail.
Finalement, il faut y être pour pouvoir changer les choses de l'intérieur. Alors, en interne, justement, est-ce que vous pensez qu'au moment où on se parle, les entreprises ont une volonté suffisante et les moyens de remédier à la dégradation croissante de la santé mentale de leurs salariés? Est-ce qu'elles font assez, finalement?
Je ne crois pas, non. Et si je dis ça, c'est que j'entends encore beaucoup trop de responsables d'entreprise considérer que la santé mentale, c'est un ensemble, c'est vrai, mais que comme ça ne concerne pas que ce qui se passe au travail, ça ne concerne pas forcément l'entreprise ou le lieu de travail, en fait. Et je pense qu'il y a beaucoup d'employeurs qui sont totalement démunis, qui ne savent pas par quel bout prendre le truc. Donc, c'est aussi une difficulté. Et de manière globale, en France, la santé mentale, la psychiatrie notamment, on sait qu'à l'hôpital, c'est la spécialité la moins bien dotée, sur laquelle il y a le moins d'investissement. Et c'est un gros sujet de préoccupation.
Maintenant, on va terminer cet échange, Marie-Lise Léon, avec la minute cap ou pas cap.
Yes.
Vous allez devoir relever le défi.
J'ai peur.
Je vous pose quelques questions rapides et légères. Vous me répondez uniquement par cap ou pas cap. Donc le principe est simple. C'est parti. Marie-Lise Léon, cap ou pas cap de perdre votre calme habituel pour défendre vos convictions?
Ouais, cap.
Cap ou pas cap de rencontrer le Premier ministre avec votre perfecto en cuir?
Cap.
Cap ou pas cap de participer à des manifestations 4 week-ends de suite?
Ouais, cap. Je l'ai déjà fait.
Ah, 6 alors, cap, 8.
Tant qu'il faudra.
Cap ou pas cap d'appeler Laurent Berger avant de prendre une décision importante?
Cap.
Cap ou pas cap de ne plus prendre l'avion par conviction écologique?
Cap.
Petite hésitation.
Ouais, parce que c'est compliqué, mais c'est un vrai enjeu. Après, si c'est un avion solaire, je le prendrai.
Cap ou pas cap de retourner vivre au Mans, votre ville de naissance?
Ah, ça c'est dur. Pas cap, non.
Cap ou pas cap de remporter le bras de fer sur la réforme de l'assurance chômage?
Ah, je pars en me disant que je suis cap, ouais. Sinon, ça vaut pas le coup de mener la bagarre.
Et pour terminer, Marie-Lise Léon, est-ce que vous auriez un conseil à donner à celles et ceux qui nous écoutent pour faire preuve d'audace?
Faut pas se mettre de limites. Quand
ouais, Mbappé a dit pareil dernièrement.
Ah ouais, je le prends comme un compliment. Ouais. Je l'ai beaucoup inspiré. Non, c'est vrai.
Il se dit toujours qu'il faut partir dans l'état d'esprit en se disant qu'on est le meilleur sur le terrain, ouais. Même s'il est face à Lionel Messi ou autre, il se dit toujours qu'il est le meilleur. Et il fonce. Et
il fonce. Ouais, non, alors moi, je ne suis pas tout à fait sur... Je suis pas sur le même terrain. Mais non, s'il faut faire preuve d'audace, je pense que être audacieux, c'est ne pas se mettre de limites. Et tenter les choses.
Merci beaucoup, Marie-Lise Léon. Merci également à vous, toutes et tous, de nous avoir écoutés. C'était le 2e épisode de Femmes de défi. Je compte sur vous pour me faire des retours, me suggérer d'autres invités dont vous aimeriez découvrir le parcours. Et bien sûr, je compte sur vous pour en parler au maximum autour de vous et diffuser cet épisode sur les réseaux sociaux. En attendant le prochain épisode, je vous embrasse et vous dis à très vite.